Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 7 and verse 9.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 7 et au verset 9. Romains, chapitre 7, verset 9. Ces paroles de l'apôtre Paul. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Ces paroles semblent étranges et mystérieuses quand on les considère à première vue. Et je vais considérer un ou deux autres versets parce que ces versets sont essentiels pour comprendre le but de la vie. Si vous comprenez ces versets, vous comprenez le but de la vie. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. L'apôtre Paul parle de son autobiographie, il nous parle de son expérience. Il va parler dans ce chapitre de la loi. Et il va utiliser ceci comme une illustration également. Quand il parle de la loi, ce qu'il veut dire, c'est une déclaration officielle et qui a autorité et qui ne change pas. Et nous ne devons pas transgresser cette loi. Elle ne peut pas être diluée ou altérée ou changée. C'est une loi, c'est là ce qu'il veut dire par ce terme « loi ». La loi n'a pas la force qu'elle avait historiquement dans le temps. Dans notre version, dans la parole de Dieu, la loi est quelque chose qui ne change pas. C'est là le but même de la loi. Bien sûr, la loi suprême, c'est la loi de Dieu. Et c'est une loi qui ne change pas. Il est impossible de changer la loi de Dieu. Elle ne peut pas être critiquée. Elle ne peut pas avoir une faute quelconque. Bien sûr que non. Parce que la loi est basée sur le caractère même de Dieu. Si la loi de Dieu est basée sur son être même, son caractère même, et qu'elle reflète ses attributs puissants, alors, bien sûr, elle ne change pas. Dieu ne peut pas changer. Dieu est parfait. Si Dieu changeait, alors il ne serait plus parfait. Tout en lui est aussi parfait que possible, sans souillure. Ainsi, la loi de Dieu, qui a été révélée dans les 10 commandements et expliquée dans les Écritures d'une manière qui a toute autorité, la loi de Dieu, nous devons y obéir entièrement. Elle ne peut pas être interprétée ou ajustée ou transformée. Elle est inchangeable, immuable. C'est la loi. Mais il y a d'autres lois, ou du moins, dans le langage de l'apôtre Paul, il parle de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La loi du péché et de la mort. Ceci s'applique à la race humaine. Nous sommes une race humaine qui a chuté loin de Dieu. Nous sommes loin du Dieu Tout-Puissant. Nous lui avons désobéi, nous avons péché contre lui. Ainsi, la race humaine a chuté. La chute expliquée dans les Écritures. Et nous sommes pécheurs sous le jugement de Dieu. Parce que le péché est entré à cause de notre péché, maintenant nous sommes liés à une loi qui ne change pas, la loi du péché et de la mort, qui est terrible. Chaque homme, chaque femme qui vit dans ce monde, qui n'est pas converti à Dieu, est sous la loi du péché et de la mort. Nous sommes gouvernés, dominés par le péché, nous sommes contaminés par le péché comme une maladie terrible et grave. Sauf que notre péché s'est délibéré. Nous avons des préjugés contre Dieu dans notre cœur et le péché devient de pire en pire en nous. Notre liste de péchés, tout ce que nous avons fait, ceci s'empile contre nous et un jour, nous devrons nous tenir devant Dieu dans le jugement. Nous sommes condamnés, comme déjà morts et condamnés. Nous sommes sous la loi du péché et de la mort. au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, nous avions une marine qui était vraiment importante, avec beaucoup de navires et de marins. Et il y avait tellement de navires qu'il n'y avait que la moitié du personnel dans ces navires. Ils n'arrivaient pas à recruter suffisamment de gens. Ainsi, à peu près 50% des gens sur ces navires étaient trouvés d'une autre manière. Ce n'était pas illégal, mais c'était la loi. C'était la manière officielle de recruter des gens si vous ne trouviez pas suffisamment de volontaires. Et toute jeune personne pouvait être recrutée. Entre 18 ans et 55 ans, toute personne qui marchait le long de la mer ou dans une rue pouvait être recrutée. Et les villes au bord de la mer étaient affectées le plus parce que la loi disait qu'il fallait recruter les gens qui étaient dans des villes, dans des villages le long de la mer, si possible. Et si vous étiez jeune et en forme, il était difficile d'échapper. Vous étiez pris comme un prisonnier, un criminel, et on vous mettait sur un bateau, le navire partait, et si vous essayiez de fuir pour aller dans un port, pour rentrer à la maison, alors, du moins au XVIIIe siècle, et également une partie du XVIIe siècle, vous seriez pendu pour cela. Vous ne pouviez pas fuir. Vous êtes sous la loi et vous êtes recruté. Pas d'autre possibilité. La loi du péché et de la mort. Je suis un pécheur et je mérite d'être condamné par Dieu. Et je suis perdu éternellement. Et mes péchés ne sont pas pardonnés. Je n'ai jamais adoré Dieu. Je ne suis jamais venu à lui. Je ne lui ai jamais donné ma vie. Je n'ai jamais cherché son amour et la vie nouvelle de la part de Christ. Je suis sous la loi du péché et de la mort. Cependant, nous n'avons pas cette impression. L'apôtre Paul utilise ce terme. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'étais en vie, je vivais, sans la loi. Il dit, il y avait un temps dans ma vie, et n'oubliez pas qu'il était un juif pieux, qu'il était un pharisien parmi les pharisiens, qu'il a étudié. Il était un étudiant de la loi de Dieu, un étudiant en théologie et un enseignant de la loi de Dieu. Et il est devenu membre du Sanhédrin juif, du conseil juif. Il y a ses preuves dans l'écriture pour cela. Et même lui, il dit « je vivais sans la loi ». Ce qu'il veut dire là, c'est qu'il y avait un moment dans sa vie, un temps où, malgré son arrière-plan religieux, où il était entièrement insouciant, indifférent à la loi de Dieu. Il vivait, il se considérait comme étant libre, et il prenait plaisir dans sa vie, il faisait ce qu'il voulait faire, il vivait la vie qu'il voulait vivre. J'étais en vie, je vivais, j'étais indifférent, insouciant, et je n'ai pas réalisé mon besoin du pardon et que je suis condamné éternellement par Dieu. Ceci n'a jamais traversé mon esprit. Et bien le contraire, il nous dit qu'il était bien fier de lui-même. Il pensait que, à cause de ma carrière dans l'église juive et son ambition en cela, il pensait qu'il était particulièrement acceptable devant Dieu parce qu'il gardait méticuleusement toutes les cérémonies de l'époque, tous les rites. Et il pensait que ceci était important, qu'il était supérieur, qu'il était acceptable devant Dieu, et particulier et unique. Et il nous dit que le moment est venu où soudainement la loi de Dieu, il l'a réalisée dans son cœur, et ceci l'a touché. Et il a réalisé qu'il est un homme méchant aux yeux de Dieu, qu'il a désobéi à la loi de Dieu, qu'il ne peut pas garder ses commandements, qu'il est si loin de garder ses commandements, et indifférent et insouciant, Saul de Tars, c'était là son nom. Il est mort. Il dit, je suis mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'étais si honteux, c'est là ce qu'il veut dire. J'étais surpris, étonné, choqué. Je suis un pécheur condamné et je vais être jugé condamné par Dieu, tout ce que je pensais par rapport à moi, tout est faux et je suis un pécheur condamné et perdu. Il dit, c'était comme mourir, j'étais brisé. C'est là la signification du verset. D'abord, je vivais sans la loi, puis quand le commandement est venu, le péché a repris vie et j'ai compris ce que c'est que le péché en moi et je suis mort. C'est comme s'il disait, j'ai vu mon orgueil, j'ai réalisé les choses qui étaient malhonnêtes dans ma vie, j'ai réalisé mon égoïsme si terrible et toutes les personnes que j'ai blessées et tout le problème en moi, ma nature tordue, mon caractère, mes convoitises et je suis mort. Je suis dans un état terrible, une condition terrible, une position terrible. C'est là ce qu'il voulait dire. Savez-vous, c'est là ce que c'est que la conversion à Dieu. Une personne indifférente qui pense qu'elle est en vie, soudainement, elle est brisée, elle est touchée et elle réalise « Je suis un pécheur devant Dieu, je suis condamné. » Ceci nous dit des choses qui sont une aide pour nous. Certaines de ces choses sont assez compliquées. Au verset 8, c'est là un verset qui peut être difficile pour vous avant de le comprendre. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il veut dire, c'est, ne voyez-vous pas, quand j'étais indifférent, insouciant, et que ma conscience n'a pas été touchée, et que je n'ai pas compris la loi de Dieu, alors je ne me suis pas réveillée. Et le péché a pris l'avantage. Et en particulier, il a pris l'avantage parce que ce que je pensais par rapport à la loi était si superficiel, même en tant que jeune dans le clergé juif ou l'équivalent. Ce qu'il pensait par rapport à la loi de Dieu était si superficiel. Quand la loi de Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », le premier commandement et le deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée ou de représentation de moi-même. Alors Saul, en tant que jeune personne, pensait, oh, je n'ai pas d'idole, je n'ai jamais fait d'idole, ainsi tout va bien pour moi. C'est une manière si superficielle de voir la loi de Dieu, il n'a pas réalisé que ceci s'appliquait à toutes les idoles, non pas simplement les idoles d'or, d'argent, de bois et de pierre, mais les idoles dans le cœur également, les idoles dans le monde, les idoles de ma vie, de mon ambition, de mes biens, de ce que je veux, et toutes ces choses que je mets devant Dieu comme priorité dans ma vie et que j'investis tous mes efforts dans ces choses et que j'aime le monde, ceci c'est transgresser le commandement de Dieu parce que dans les commandements Dieu dit « Je suis votre Dieu ». Et vous pouvez venir à moi et je suis bon, je pardonne, je vais vous bénir et vous serez mon enfant. Je vais vous diriger et vous amener à la maison, au ciel. Et vous vous dites, non, je ne te veux pas, je veux les choses matérielles, les choses d'ici, de maintenant, de cette terre. Et ces choses sont votre Dieu. Mais Saul de Tarse avait une impression si superficielle des commandements. Et je pourrais parler d'autres commandements. Tu ne tueras point. Oh, Saul dirait, je n'ai jamais tué quiconque. Je suis complètement innocent. Je suis acceptable devant Dieu. Mais la Bible et Moïse dit que le commandement tu ne tueras point inclut également de ne pas haïr, de ne pas tuer la liberté de quelqu'un, ôter sa liberté, de ne pas faire d'esclave, de ne pas ôter à quelqu'un sa liberté et sa joie et son bonheur dans la vie. C'est plus profond que d'insulter quelqu'un, de blesser quelqu'un pour détruire leur bonheur, leur plaisir. C'est là quelque chose qui est dans la famille du meurtre dans la Bible. Mais Saul voyait le péché de manière très superficielle. Ainsi, le péché prenant occasion du commandement, de l'opinion si superficielle des commandements, et il a péché même sans le savoir, sous la loi du péché et de la mort. c'est bien plus clair qu'il ne semble à la surface de ce verset. Mais le péché, prenant occasion, prenant l'avantage du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Ce terme signifie des mauvais désirs, toutes sortes de convoitises, de mauvais désirs, car sans la loi, avant qu'elle ne me parle et qu'elle ne soit un défi pour moi, qu'elle ne touche ma conscience, la loi était morte et le péché était mort. Je n'ai pas réalisé auparavant combien ces choses étaient graves. C'est là le sujet le plus important dans notre vie, parce que sans la conversion à Dieu, sans le pardon qui vient par Christ, nous sommes sous la loi du péché et de la mort et nous ne pouvons pas échapper. C'est comme une personne qui est malade, très malade, gravement malade, mais qui n'est pas consciente. Peut-être que c'est une tumeur grave. À la surface, tout va bien. Et la personne semble être en bonne santé. Peut-être que la personne a un petit peu de douleur de temps en temps. Et ceci avertit la personne. Mais souvent, nous mettons ces choses de côté. Et nous disons, nous pensons que tout va bien. Tout va bien. Ainsi, nous vivons librement, indifférents. Et peut-être loin de Dieu, nous péchons librement contre lui. Et nous suivons toutes nos tentations, nos envies, nos plaisirs. Et nous nous disons, je ne suis pas religieux, je suis libre. Mais c'est bien le contraire. Je suis sous la loi du péché et de la mort, et je n'ai pas réalisé ceci. Je suis vraiment malade dans mon cœur, et je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie, ce qui va se passer pour moi. Et je vais devoir comparaître devant Dieu, et ce sera trop tard. Je ne serai pas pardonné, je ne serai pas purifié, lavé. Je vais vivre et mourir sous la loi du péché et de la mort, condamné pour l'éternité. Mais ceci parle de l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'il œuvre. Il vient et il œuvre dans la conscience. Il touche la conscience. Et pour la première fois dans notre vie, nous nous réveillons. Quand nous réalisons notre état, notre condition. Mais quand le commandement est venu, oh, tout était différent. J'ai réalisé mon état, ma condamnation, et je me suis réveillée. Je suis mort et je suis venu à Dieu. Je l'ai cherché. Et c'est là ce que l'apôtre Paul nous dit. J'aimerais passer un certain temps pour vous parler de ce qui était son péché principal. Jamais vous n'auriez pensé à cela ou imaginé cela, mais il nous dit ceci, que son péché principal, c'était la convoitise. Avant sa conversion, avant que Dieu n'ait œuvré dans son cœur, le dixième commandement, le dernier commandement. Et c'est ce qu'il dit ici. Si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point », alors il aurait continué dans la convoitise. Jamais il n'a vu ceci dans sa vie. Qu'est-ce qu'il convoitait, je me demande. Qu'est-ce que celui qui est devenu l'apôtre Paul convoitait avant sa conversion? Probablement, oh, nous pouvons deviner, il convoitait une bonne carrière et une position importante dans la société juive, dans l'église juive, et ceci était important pour lui, parce que ce n'était pas simplement l'église, mais c'était toute la nation. Si vous pouviez aller dans ce conseil du Sanhédrin, si vous pouviez être un chef important des pharisiens dans le conseil qui gouvernait le conseil des juifs, alors les gens vous respectaient, vous aviez une position importante, et un palais important, une belle maison dans laquelle vous pouviez vivre. Peut-être que c'était là sa convoitise, quelque chose pour moi. L'admiration des gens et les gens qui m'applaudissent, les biens, les désirs de convoitise. Mais quand Dieu a œuvré dans le cœur de Saul de Tarse, il lui a fait réaliser. Il a réalisé qu'il était sous la condamnation de Dieu à cause de sa convoitise. Et nous, pour quel péché sommes-nous sous la condamnation? Quel est votre plus grand péché? Est-ce l'orgueil? Est-ce la convoitise, l'avarice? Ou les mensonges? Dans les mensonges, dans la vanité, ou dans la déception, dans la tromperie? Ou est-ce que c'est l'égoïsme où je suis moi, numéro un? tout pour moi, ou est-ce que c'est la colère? Oh, c'est une liste terrible. Oh, est-ce que c'est plusieurs de ces choses ensemble ou toutes ces choses? Et la main de Dieu vous touche. Quelle bénédiction! Et Dieu œuvre dans votre conscience. Et je vois qui je suis réellement. Et je meurs. J'ai besoin de Christ. J'ai besoin de Christ qui est venu du ciel, la deuxième personne de la Trinité, qui est venu dans ce monde pour souffrir, pour mourir pour les pécheurs. J'ai besoin du Sauveur du monde qui est allé à la croix du calvaire. Et sur cette croix, quelque chose que vous ne pouvez pas montrer dans des films s'est passé. Dieu, le Père, a versé sur lui le fardeau du péché de tous ceux qui seront pardonnés. Et il l'a condamné, lui, à notre place, et il a porté notre péché, notre condamnation. En faisant cela, il a payé le prix pour pardonner aux pécheurs et pour nous transformer, pour reconstruire notre vie, pour nous amener en communion avec lui, pour nous prendre sous son aile, pour nous donner une vie nouvelle et pour nous mettre sur le chemin vers le ciel. Jésus-Christ, oh quel amour si immense! C'est là ce dont nous avons besoin, l'amour de Christ. C'est là ce que Saul de Tarse a réalisé. D'abord, il n'a pas répondu. Dans son cas, parce qu'il allait être un apôtre, le Seigneur est apparu à Paul. Ceci ne se passe pas depuis ce jour-là pour d'autres personnes. Et l'une des choses que le Sauveur lui a dites, c'est ceci. Il est difficile pour toi de regimber contre les aiguillons. Oh, il a déjà touché sa conscience plusieurs fois auparavant. Et l'apôtre Paul, avec orgueil, avait résisté. Et ensuite, le moment est venu où il a été brisé. Et il s'est tenu aux pieds de Christ et il a plaidé pour sa miséricorde, pour son pardon, pour une vie nouvelle, pour la vie spirituelle, pour la communion avec Dieu. Et Dieu l'a transformé d'une manière merveilleuse. Et à partir de ce jour-là, il était une personne entièrement différente. Peut-être qu'il y a quelqu'un présent ce soir, et pour la première fois, votre conscience va parler. Et dans un certain sens, vous allez mourir. Vous allez ressentir quelque chose de terrible, une honte profonde. Je suis ce pécheur coupable qui a besoin de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu, d'une vie nouvelle, du ciel. J'ai besoin de Christ. Et vous allez vous tourner vers lui, venir à lui. Et c'est là ce qui se passe dans la conversion. Chers amis, vous devez pardonner mon illustration. Mais ces gens qui étaient recrutés dans la marine, tout ceci s'est arrêté à peu près en 1812, il me semble. Ainsi, la nation n'a plus recruté de cette manière-là. Mais un expert de la loi navale m'a dit que les lois qui permettaient de recruter ainsi n'ont jamais été éradiquées. Bien sûr, nous ne faisons plus cela de nos jours, mais ces choses ont été remplacées par d'autres manières. C'était le service militaire, par exemple, qui était plus efficace. C'était tout le monde qui devait y passer. Peut-être que c'est nécessaire dans un temps de guerre pour défendre la nation. Mais pour la personne, en certains aspects, c'était comme recruter contre le gré des gens. Parce que vous deviez aller dans un endroit où vous ne vouliez pas aller pendant une certaine période, faire des choses que vous ne vouliez pas faire. Ou peut-être que vous êtes dans un endroit où vous êtes en danger. Oh, si vous étiez recruté à l'époque, vous deviez servir pendant 5 ans. Mais d'autres statistiques nous disent que 50% des gens qui étaient sur les navires mourait de la scarlatine. Ainsi, vous étiez à un endroit où vous ne vouliez pas aller, et peut-être que ceci allait vous coûter la vie. Quelle illustration quand nous sommes sous la loi du péché et de la mort. Rebelle contre Dieu. J'étais au service militaire il y a bien des années, et nous devions tous aller là où nous ne voulions pas aller pendant une période que nous n'avions pas choisie. Et vous ne pouviez pas aller vers les autorités et dire « Oh, excusez-moi, j'aimerais aller à la maison. » Non, la loi est quelque chose qui ne change pas. Vous ne pouviez pas vous échapper, vous ne pouviez pas payer pour pouvoir vous enfuir. Oh, je ne me plains pas. Ce n'était pas aussi difficile qu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes sous la loi du péché et de la mort. Vous n'êtes pas libre. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Non, vous péchez comme vous êtes tenté de pécher. Et vous mourrez au moment venu. Vous êtes sous le jugement de Dieu. La loi du péché et de la mort. Combien nous avons besoin de la miséricorde de Christ, l'amour si immense de Christ, qu'il vienne, qu'il souffre, qu'il meure pour les pécheurs, pour que nous puissions être pardonnés, purifiés. Chers amis, même pour moi, le jour où j'ai été libérée du service militaire, c'était un grand jour. J'étais libre. Et ceci ne peut en aucun cas être comparé au jour de la conversion, où une autre loi vient à la vie, la loi de Christ. Cet homme, cette femme est pardonné, est justifié, est accepté devant Dieu, est libre, libre de la loi du péché et de la mort. Et vous trouvez le Seigneur et vous le connaissez, vous le rencontrez, vous marchez avec lui. Chers amis, notre temps est passé. C'est là la conversion à Christ, combien nous avons besoin de lui et de croire en lui, de nous repentir de notre péché, de nous donner à lui et de le trouver. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce à chacun, nous te prions, et aide-nous à présent. Accorde, Seigneur, que nous puissions être réveillés, pour que nous puissions connaître ce toucher de notre conscience, même le brisement de la conviction de péché, pour que nous puissions réaliser notre besoin de Christ et venir à lui et le trouver et l'avoir lui comme notre sauveur. Seigneur, bénis chacun d'entre nous et œuvre en nous à présent. Nous te le demandons dans le nom de notre sauveur, pour sa gloire. Amen.